Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Si vous avez un coup moral, l'impression que la vie vous en veut, le sentiment que tout est foutu, alors écoutez cette histoire. L'histoire de deux alpinistes britanniques qui s'appellent Simon Yates et Joe Simpson. En 1985, ils se sont lancés dans l'ascension du Siula Grande, plus de 6000 mètres au Pérou. Une première mondiale. En théorie, ils n'auraient jamais dû revenir. Ils auraient dû mourir là-haut. Ce que ces deux garçons ont fait est unique dans l'histoire humaine. Unique. Je tire mon récit du livre de Joe Simpson, La mort suspendue, chez Glénat. Et tout à l'heure, je ferai appel à Éric Millet, qui publie chez Omnibus un livre qui recense plusieurs histoires de survie, dont celle-là. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Joe Simpson. J'ai 24 ans. En mai 1985, avec mon copain Simon Yates, nous avons décidé de nous attaquer au Siula Grande, un sommet péruvien de la cordillère des Andes. 6356 mètres, par la face ouest, avec un mur de 1400 mètres. Personne n'avait jamais fait ça. Ça fait 10 jours qu'on est au camp de base, à 4500 mètres d'altitude. 10 jours pour s'acclimater. La nuit vient de tomber sur la montagne claire et glacée. Nous partons tôt, demain matin. Ce matin, le froid est vif, mais le temps est superbe. Aucun signe avant-coureur de tempête. Simon avance le premier vers la paroi glacée toute bleue, dans la lumière du petit jour. Et il attaque le mur de glace. Le voilà à 45 mètres au-dessus de moi. Mon Dieu, que cette ponte est raide!
Vas-y, tu peux y aller.
J'attrape mes piolets, je vérifie mes crampons et je me lance. Je suis encore tout engourdi, mais c'est bon, je me réchauffe.
C'est raide, hein?
Je le rejoins. Bien vérifier les placements de pieds. Planter le piolet. Et hop, coup d'œil sur les pieds, piolet, piolet. Ça y est, j'ai pris le rythme. Sans effort et sans migraine d'altitude. Du beau travail. Je suis en sueur, mon sang circule à toute vitesse. Je me sens vivre.
Hurrah!
300 mètres. 600 mètres. Qu'est-ce qu'on va voir à la fin de cette pente? Maintenant, le soleil nous inonde. On a mis nos bonnets et nos anoraks dans le sac. J'ai chaud. J'ai soif.
On s'arrête pour déjeuner? Ok!
On s'arrête sur un rocher qui jaillit de la paroi. Simon me tente un morceau de chocolat et quelques pruneaux. Et c'est reparti. Nous grimpons maintenant parallèlement au pilier central, un formidable éperon de roche jaune qui coupe la montagne. Pour l'instant, la partie supérieure nous bouche la vue. Et puis au fur et à mesure que nous avançons, le pilier se dévoile. Et là, on réalise qu'il s'agit d'un mur de 300 mètres de haut. Et donc, en permanence, des pierres tombent, en vrombissant, en ricochant sur la glace, pour finir par rouler jusqu'au glacier. Pour l'instant, on est hors du champ de tir. Mais une chute comme ça peut changer un vulgaire caillou en dangereux projectile. Normalement, on doit trouver un couloir de glace qui s'enfonce dans le flanc du pilier. On a 6 heures devant nous pour le localiser et le remonter. Et creuser un abri pour la nuit, parce que on n'a pas pris de tente. On a prévu de dormir tous les soirs en se faisant un trou dans la neige.
crois qu'on est encore loin? Je sais pas. C'est pas là, en tout cas.
Je suis passé le premier. Et je me retrouve face à une cascade de glace, dure et cassante. À chaque coup de piolet, je détache un petit morceau. Et Simon, qui est en dessous, le prend dans la figure. Et il n'y a pas que ça. Des morceaux de glace se détachent aussi de l'arête sommitale. Putain, ça fait froid dans le dos.
Irons-nous d'ici, vite !
On bifurque vers un passage rocheux. Et soudain...
Rocher !
Un rocher d'un mètre de diamètre me tombe dessus. J'ai juste le temps de me tasser sur le côté. Je sens un choc sur mon épaule, amorti par mon sac, et je vois le rocher qui continue sa course droit sur Simon qui est en dessous. Il met une éternité à réagir. Et quand il bouge, c'est comme au ralenti. Je suis plaqué contre la paroi. Je ferme les yeux. Et puis, je risque un œil.
Ça va, Simon ? Ouais, c'est bon. Avance, le coin est malsain.
On a fini par trouver le couloir. Et après 15 heures d'escalade intensive, nous voilà à notre premier bivouac, à 5800 mètres d'altitude.
Tu veux quoi, Swan ? Alors au choix, moussaka ou suprême de dinde ? Oh ben peu importe, ils sont aussi immangeables l'un que l'autre, je suppose.
On a choisi la dinde. Le lendemain, je démarre la journée en tête. Nous atteignons une sorte de rampe. À quoi ? 500 mètres du sommet ? On se trouve face à une barrière de sérac. Impossible de continuer.
On sent que c'est une mauvaise surprise, ça, bordel ! Faut absolument qu'on trouve un passage.
Et avec ça, l'air s'est raréfié. On atteint la barrière de sérac vers 13 heures.
Tu vois les stalactites, là ? Je pense que c'est la solution pour passer.
Effectivement, au milieu du sérac, il y a une cascade de glace. C'est la seule surface solide. Mais avant, il nous faudrait escalader une falaise glacée.
C'est pas évident, hein. Vaudrait mieux tenter notre chance par les rochers. Les rochers, impossible. C'est complètement pourri.
Simon se dirige vers la paroi. Il attrape le rocher à pleine main. Et il s'élève lentement, et puis d'un coup, une de ses prises lâche, et il tombe.
Merde, merde! J'étais pourtant sûr que ça allait tenir!
Et il y retourne, mais sur le côté de la cascade, pour éviter le mur. À un endroit bourré de stalactites. Des colonnes de glace, de la grosseur d'un bras, longue de 2 mètres, voire plus.
Je vais en faire tomber quelques-unes au passage. Fais attention!
Je m'attaque à mon tour au mur de glace. Et à un moment, sans réfléchir, j'envoie un grand coup de piolet dans une stalactite juste au-dessus. Et là, 50 kilos de glace s'effondrent sur moi.
Merde, je me suis pété une dent! T'as la lèvre fendue aussi. Et tu saignes. C'est de ma faute. Pardon.
On a mis 4 heures pour faire 100 mètres. Il est 8 heures du soir. Le vent souffle de plus en plus fort. Il neige. J'ai froid. J'ai le petit doigt gelé. On va bivouaquer là. Quelque part sur ces pentes abominables. Simon met encore 2 heures à trouver un endroit. On se creuse un abri rectangulaire. Et vers 23 heures, on se glisse dans nos sacs de couchage. Il fait moins 20 degrés. Et avec le vent, moins 40. Ce matin, le ciel est limpide. On voit au moins où on met les pieds. Et là, ça va très vite. Un mur de neige.
Cette fois, c'est dans la poche.
Et nous voilà au sommet. On a réussi.
Attends, bouge pas. Je prends une photo.
Et maintenant, il faut redescendre.
On dirait qu'on va avoir droit à une autre tempête, hein ?
Redescendre, mais par où ? On attaque la descente à 13h30, en cordée. Et là, les nuages se referment sur nous. Et il se met à neiger à gros flocons.
On n'y voit rien !
Et à un moment, un bruit sourd. Simon ! Il a dû passer à travers une corniche. Ou prendre une chute de Sérac. Simon ! Ça va ? Il met un quart d'heure à me répondre. Je le retrouve assis sous la crête, tremblant. Une corniche de neige a cassé. Il est parti avec elle. Il a cru que c'était fini. Il avait oublié qu'il était retenu par une corde. C'est la corde qui l'a sauvé. La suite est un enfer. Il fait moins 20, la nuit tombe. On n'a presque pas avancé. On est encore tout près du sommet. Mais bon, normalement, on sera au camp de base demain après-midi. Le lendemain, on quitte notre grotte à 7h30 et on attaque la descente, désespérément lente. En 2h30, on ne descend que de 300 mètres. Il faut absolument arriver au glacier avant la tempête qui s'annonce. Après une matinée harassante, on tombe sur un mur de glace de 8 mètres. Je m'accroupis sur le bord. J'enfonce mes deux piolets dans la neige. Et doucement, je me laisse glisser jusqu'à ce que les pointes avant de mes crampons rencontrent une surface dure. Et là, quand je sens qu'ils ont bien mordu, je ramène mon piolet près du bord et je descends plus bas en désancrant mon marteau piolet. Suspendu par une main, je me laisse couler millimètre par millimètre. Et là, de la main gauche, je tente d'ancrer mon marteau piolet. Je martèle la paroi. Je sens qu'il mord. J'hésite un peu avant de lui confier tout mon poids. Non, c'est pas bon. Je décide de recommencer et à l'instant précis où je ressors la pointe de la glace, j'entends un craquement sec. Ma main droite qui part en arrière. Là où mon point d'appui qui cède. Et je tombe. Et je m'écrase à la base du mur. Mes genoux encaissent le choc. Aïe ! J'ai l'impression qu'ils explosent. Et après, je pars sur le dos. Je dégringole la tête la première vers un à-pic. Je sais que je suis attaché à Simon, mais à cette vitesse, il va pas pouvoir me retenir. Je vais l'arracher à la montagne. Et puis, d'un coup, je m'arrête. Il a tenu. Oh mon Dieu, ma jambe ! Ma jambe ! Je la regarde. Elle forme un angle bizarre. J'essaye de me relever. Je m'effondre.
Je me suis cassé la jambe, Simon. Je me suis pété la jambe. Je suis foutu. Foutu. Foutu.
Je regarde ma jambe. D'après ce que je vois, mon tibia a traversé l'articulation du genou. Je serre les paupières et je pleure. Comme un enfant perdu qui prend conscience que la mort rôde autour de lui. À ce moment-là, Simon pose sur moi un regard insoutenable. J'y lis la pitié. Et plus encore, il me repousse. Comment on repousse un animal blessé pour lequel on ne peut plus rien? T'es foutu, mec. T'es foutu. T'es mort. Mais moi, je n'ai pas renoncé. Et centimètre par centimètre, la tête penchée, à coups de piolet dans la neige, je me mets à avancer, à me traîner sur une jambe, avec tellement de concentration que j'en arrive à ignorer la douleur. Et petit à petit, comme ça, je trouve une séquence de mouvements que je répète. Devant, Simon se met à piétiner la neige pour me faire un chemin.
Je suis fichu, Simon.
J'y arriverai pas.
On aperçoit un col. Je ne vois qu'une solution. Glisser. Glisser jusqu'à ce col.
Simon ! Tu penses que tu vas pouvoir supporter mon poids avec cette neige ? Un bout de bras ? Au bout d'une corde ?
On s'encorde à 100 mètres.
Ça y est ! T'es prêt ?
Je me mets à plat ventre dans la pente. Et je me laisse glisser. Et ça fonctionne. Je descends doucement avec un piolet dans chaque main, prêt à les enfoncer en cas d'amorce de chute. Bien sûr, je n'arrive pas toujours à soulever ma jambe blessée. Parfois, les pointes du crampon s'accrochent dans la neige. Et là, je reçois de sacrées décharges de douleur. Mais j'essaye de pas crier. Je veux pas que Simon s'arrête. Ça y est, j'ai fait 50 mètres. La mort s'éloigne de moi. Quand j'arrive en bas de la pente, il est 4 heures.
Joey, la tempête arrive. Il fait super froid. Bon, si tu veux, on peut passer la nuit ici et se construire un abri.
Non. Non, je préfère continuer, perdre encore un peu d'altitude. Avant la tempête.
Tu veux pas prendre le temps de respirer un peu ? Pas besoin d'attendre. Allez.
Et l'abominable descente reprend. Le temps s'est dégradé. Tandis que la douleur de mon genou se propage maintenant à tout mon corps. Et là apparaît un nouveau problème. Comme dans la glissade, je reste souvent sans bouger. J'ai les mains gelées. J'arrache ma moufle avec les dents. Mes doigts sont durs. Je n'arrive plus à les plier. La nuit tombe et nous continuons notre descente infernale. Et maintenant, on doit être à plus de 100 mètres de ce col où nous passerons la nuit. 100 mètres, plus que 100 mètres. Et là, d'un coup, tout s'accélère.
Simon, putain ! Ralentis !
Est-ce qu'il a perdu le contrôle ? J'essaye de me freiner avec mes mains, mais rien n'y fait. Je glisse toujours. Il faut que je m'arrête. Et au bout de cette chute, il y a forcément un mur. Il y a un trou, il y a une crevasse. Et soudain, le vide. Le vide, mes pieds rencontrent le vide et je tombe. Et je chute comme un pantin au bout de ma ficelle. Et là, d'un coup, je m'arrête. Et je me retrouve pendu dans le vide au bout de ma corde. Et je me dis, ouf, Simon a réussi à me retenir. Avec ma lampe frontale, je remonte la corde jusqu'à l'endroit d'où je suis tombé. 5 mètres. Je suis à 5 mètres du bord, dans le vide, suspendu à mon baudrier. Et ensuite, j'éclaire en dessous. Il y a au moins 30 mètres au-dessous de mes pieds. Et en dessous, la bouche d'une crevasse. Impossible de remonter. Impossible de descendre. La nuit, le vent qui souffle en rafale. Le froid. D'ici 2 heures, tout sera fini. Ça fait une demi-heure que je pends dans le vide. Je suis épuisé. Besoin de m'engloutir dans le sommeil. J'essaye même plus d'appeler Simon. Je vais mourir là. Je tiendrai pas jusqu'à demain.
Merde, merde, merde. Quelle connerie. Quelle connerie.
À l'autre bout de la corde, Simon a tenu le coup. Il est arc-bouté dans la neige, à 3 mètres du bord. Son baudrier lui scie les cuisses. Il est gelé, mais il ne lâche pas. Et il suppose que Joey est suspendu dans le vide. Mais à quelle hauteur? Il n'en sait rien. Ça fait 1 heure qu'il le tient à bout de bras comme ça, dans la tempête. Il ne sent plus ses mains. Il va lâcher ou il va être entraîné. Il n'a plus qu'une seule solution. Le couteau. Sortir son couteau et trancher. cette corde. Il ouvre le couteau avec les dents. Il s'approche de la corde. Il n'a même pas besoin d'exercer de pression. La corde tendue se rompt et elle éclate. Littéralement. Simon est là, sans bouger dans la nuit et le vent, hébété, seul. Et il se dit, est-ce que je l'ai tué ? Il se met à creuser un trou dans la neige. Il se glisse dans son sac de couchage. Et il s'endort. Joey est mort. Je sais qu'il est mort. À l'autre bout de la corde, j'avais accepté l'idée de la mort. Ma lampe frontale avait fini par s'éteindre. Quand Simon a tranché la corde, j'étais en train de regarder les étoiles. Je les trouvais belles. Et après, je suis tombé. Une chute sans fin. Je me souviens de l'impact dans la neige. Et après, plus rien. J'ai perdu connaissance. C'est la douleur qui me réveille. Et mes jambes sont repliées sous moi. Si j'étais mort, je sentirais rien. Je suis vivant, nom de Dieu. De ma main, je balaye l'espace autour de moi. De la glace. J'ai dû atterrir sur une terrasse ou un pont de neige. Et Simon, il est mort. Il serait tombé sur moi.
Simon ! Simon !
L'écho me renvoie son nom comme une gifle. Et là, je me dis, il est peut-être au bout de la corde. Alors je tire sur la corde. Aucune résistance. La corde vient à moi. Et là, je regarde le bout. Coupé ! Il l'a tranché. Mon Dieu, c'est bien la peine d'avoir fait tout ce chemin. Il aurait dû m'abandonner là-haut, sur l'arête. Maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment fini. C'est le froid qui me réveille. Bon, ah ben, je vais finir mes jours au fond de cette crevasse. Simon doit penser que je suis mort. Combien de jours vont s'écouler avant que je ne meure ? Trois jours. Ça va être long. Je veux pas mourir comme ça. Alors je me redresse, j'allume ma lampe. Je regarde la paroi. Je peux pas le remonter, ce mur. J'essaye. J'ancre mes deux piolets le plus haut possible. Je me tracte sur les bras. Je plante la pointe de mon crampon gauche. Elle a ripé. Je recommence une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois. Ah ! Ah ! Je hurle. Ça passe pas. Je crie une dernière fois de toutes mes forces.
Simon !
Je suis sur une terrasse dans la crevasse. Est-ce que l'autre solution, c'est pas de descendre ? Je trouverai peut-être une issue en dessous. Je déroule ma corde dans le vide. Et je descends en rappel. Et en bas, si je trouve pas d'issue, je pourrai jamais remonter. J'arrive au fond de la crevasse. Je me retrouve dans une grande salle souterraine. Elle est remplie de neige. De neige! Et s'il y a de la neige, c'est qu'il y a une sortie. Et là, un rayon de soleil. Il n'y a plus qu'à le suivre, en rampant. Mais sur ce plancher, il y a peut-être des trous, alors je me tortille. Aussi légèrement que possible. Et j'arrive au pied de la pente qui s'élève en direction du rayon de soleil. Nom de Dieu, qu'elle est longue cette pente, au moins 40 mètres. Et qu'elle est raide, 45 degrés au départ, mais au moins 65 après. Je me lance à la force des bras. Un piolet, bloquer ma jambe valide. Puis un autre coup de piolet. Trouver le bon geste, le répéter. Creuser, sauter, se reposer. Creuser, sauter, se reposer. Les décharges douloureuses finissent par s'intégrer à cette routine. Deux heures plus tard, il ne reste plus que 3 mètres à faire. 3 mètres. Je suis exténué. Ma jambe me torture. Et c'est reparti. Désormais à la seule force des bras. Et là, ma tête crève la neige. Et comme une marmotte qui sort de son terrier, je jaillis à l'air libre. Mon Dieu, que c'est beau! Je ne suis pas sorti d'affaire. Il me reste une 60aine de mètres pour arriver au glacier. Et après au moins 10 kilomètres jusqu'au camp de base. Et je n'ai plus rien à manger, plus rien à boire. Et je n'ai plus de jambe droite. Mais j'ai un but. Et je préfère aller à la rencontre de la mort plutôt que de l'attendre ici, sans bouger. Vous n'allez pas le croire. En descendant à cloche-pied vers le glacier, je regarde le mur d'où je suis tombé hier. Il y a une corde qui pend. Simon a survécu! Je suis arrivé à cloche-pied au glacier. Et après, j'ai rampé pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, je suis arrivé en vue du camp de base.
Simon! Simon!
Pas de réponse. Est-ce que je vais dormir ici? Non. Non, il faut que j'avance à tout prix. Je regarde ma montre, il est 1h15 du matin.
Simon!
Je vous en prie.
Soyez là! Vous devez être là. Venez m'aider. Au secours!
Et là, une lumière rouge et verte dans l'obscurité. Et puis des sons étouffés. Et puis des voix.
Joey? C'est toi, Joey?
Par ici? Par ici? Joey! Joey, putain de bordel! Joey! Mais comment? Comment?
Arrivé à la tente, Simon m'a donné du thé chaud. Et puis du porridge, mais j'ai pas pu l'avaler. Et après, je lui ai tout raconté. Simon? Ouais? En coupant cette corde, tu m'as sauvé la vie, tu sais? Je t'en veux pas, hein? T'avais pas le choix? J'ai pensé que t'étais mort. Oui, je sais. Mais je m'en veux de pas être resté là au plus longtemps pour te chercher. N'y pense plus, Simon. N'y pense plus. C'est fini. Une seconde plus tard, je suis tombé dans le sommeil. On est parti le lendemain matin, à dos de mulet, jusqu'à Cajatambo, et ensuite en camionnette jusqu'à Lima. et à Lima, on m'a opéré. Et après l'opération, le médecin m'a dit « Vous ne pourrez plus plier les genoux, hein, monsieur Simpson. Vous boiterez et vous pourrez plus grimper, hein, ça, c'est sûr. Hein. » Ça m'a pas empêché d'essayer, hein. Je suis reparti en expédition 10 semaines après ma dernière opération, au Pakistan. Mais je n'ai pas pu aller au bout. L'arthrite. Et depuis, je raconte mon histoire. C'est le meilleur traitement. Cette lutte pour la vie au Sula Grande a fait de moi un homme d'affaires. C'est bizarre tout de même, hein. Je vous ai raconté aujourd'hui peut-être l'une des plus incroyables, la plus incroyable expérience de survie en milieu hostile, l'histoire de Simon Yates et Joey Simpson, telle que Joey Simpson la raconte dans son livre « La mort suspendue » paru en France chez Glénat. Et pour débriefer cette histoire, j'ai demandé à Éric Millet d'être là. Vous avez écrit « Survivre », un livre qui collecte des témoignages de survie en milieu extrême. Il y a un chapitre d'une cinquantaine de pages consacré à cette histoire dans votre livre. Selon vous, est-ce que cette capacité à trouver de la force en soi tient à l'alpinisme ?
Avant l'alpinisme, je pense que ça tient d'abord à l'engagement. En fait, chez les survivants, on peut classer en gros les survivants en deux catégories. Il y a d'abord les survivants actifs, ça c'est complètement le cas de Joey Simpson, et les survivants passifs, c'est-à-dire les premiers vont essayer de repousser la mort en permanence, c'est le cas de Simpson, et les deuxièmes, les passifs, vont essayer de se maintenir en vie. Et dans le cas de Simpson, en fait, il est mort plusieurs fois, selon lui, hein, selon son imaginaire, au cours de son aventure.
Mais est-ce que c'est la pratique de ce sport, qui pour moi est une étrangeté, hein, je vous l'avoue, est-ce que c'est la pratique de ce sport qui donne cette force-là ?
Alors, c'est tout à fait possible, parce que d'abord, il faut savoir que les deux alpinistes avaient 25 ans en ce qui concerne Joey Simpson et 21 ans en ce qui concerne Simon Yates. À cet âge-là, on est invincible, on est pratiquement immortel. Ensuite, ce sont des alpinistes chevronnés et ils montaient ce qu'on appelle en style alpin. Style alpin, c'est-à-dire qu'on monte sans oxygène et on emporte tout avec soi. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation de survie avant même de commencer à grimper. Ensuite, un fait important de ce style de style alpin et d'escalade à deux, c'est qu'on est obligé de s'en remettre à l'autre. C'est-à-dire que tout ce que l'autre fait, on l'accepte par essence, même avant d'avoir mis le premier coup de crampon dans la paroi.
D'ailleurs, on voit très bien que dans la montée, un coup il y en a un devant, un coup c'est l'autre. C'était une sorte de partage des tâches absolument rigoureux pour que chacun ne puisse jamais reprocher à l'autre quoi que ce soit, quoi.
Absolument, c'est-à-dire que là on fait corps dans la montagne, on fait corps avec la montagne, on est la montagne et tout le long de l'escalade, les décisions prises par un sont par essence acceptées par l'autre. Il n'y a pas de remise en question des décisions qui sont prises par celui qui monte en tête.
Mais ce style alpin là dont vous parlez, c'est quelque chose qui est établi entre eux avant le départ ou c'est une chose qui s'instaure de manière naturelle dans une forme de non-dit ?
Ah non, non. Alors, tout est dit au départ. À partir du moment où on décide de partir avec quelqu'un, et c'est qu'on accepte de s'en remettre à l'autre dans n'importe quel cas, et pour le bien et pour le mal, on va dire dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Simon Yates décide de couper la corde, Joey Simpson accepte forcément cette chose-là. Il s'en aperçoit après, hein, il s'en aperçoit pas sur le moment. Il sent qu'il va dévisser, parce qu'en fait, au moment où Simon Yates coupe la corde, Simpson est suspendu dans le noir, ils ne peuvent pas
communiquer. Il n'a plus de piles, il n'a plus de lampe, il n'a plus de piles.
Il n'a plus rien, il est complètement dans un autre monde, il est déjà mort, Simpson, à ce moment-là.
Hein. Moins 20 degrés, le vent.
Il est dans le vent, il est dans le grésil, il n'entend rien, il est dans un autre monde au-dessus de lui, il y a juste la voûte étoilée et les étoiles, il est déjà mort, parce qu'il est mort au moment où il a cassé sa jambe, puisqu'il sait que dans ces conditions-là, les chances de survie sont pratiquement inexistantes, et la deuxième peine, c'est quand il est suspendu dans le vide, où là, il sait très bien que Simon Yates ne peut pas le ramener. Il essaie lui-même, à un moment donné, d'essayer de remonter la corde, mais oui. Ses doigts sont gelés, c'est impossible à faire, et il meurt à ce moment-là. Il est littéralement mort pour lui.
Moi, il y a un passage, Eric, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis peut-être pas assez attardé là-dessus dans le récit, dans le bouquin. Il y a une page entière sur, à un moment donné, malgré tout, le ressentiment qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre au moment où Joey se casse le genou. Il dit qu'il voit dans le regard de Simon, t'es mort, gars. C'est-à-dire, pour toi, c'est fini, je vais finir tout seul. Et il le hait. Il le déteste à ce moment-là.
Il le déteste parce que c'est justement ce qui ne doit pas arriver. C'est-à-dire que quand on monte en style alpin à deux, a fortiori dans des endroits comme ça, on est quand même dans la cordillère Huayhuash au Pérou, c'est-à-dire que à partir du moment où on attaque cette partie de la cordillère des Andes, on sait que la moindre faute est la seule issue, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler les secours, on ne peut pas, le téléphone passe pas, c'est impossible d'avoir des secours qui puissent permettre à un alpiniste d'être secouru à ce moment-là. Donc là, il faut saluer aussi le courage de Simon Yates qui tente de sauver son ami en le faisant descendre. C'est très
à bout de bras, à la corde.
Exactement, c'est-à-dire qu'il va entreprendre de le sauver. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la haine qui peut naître de l'arrêt de leur aventure, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt net de leur aventure humaine à deux, à ce moment-là, puisque Simon Yates sait, dans le regard de Josephson, que de toute façon, le jeu s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on bascule, il y a un basculement de la relation des deux hommes à ce moment-là. Mais Yates va se reprendre et c'est là qu'il faut saluer sa performance, c'est-à-dire qu'il va, il sait qu'il ne peut pas l'abandonner, le laisser sur place pour aller chercher du secours tout seul. Ils sont obligés de terminer à deux, donc ils vont terminer à deux jusqu'au moment où il arrive ce phénomène imprévisible supplémentaire qui est le fait que Joey Simpson reste suspendu dans le vide.
À votre avis, est-ce que ce genre d'histoire est utile pour tous les gens comme moi qui ne font pas d'alpinisme? Que les alpinistes ont conclu qu'à l'arrache des dents, on peut y arriver, ok. Mais est-ce que ça peut servir à d'autres? Je posais l'hypothèse dans le lancement de l'émission tout à l'heure que ça puisse servir au fond à tous les gens qui sont en difficulté et qui pensent que c'est fini, mais c'est une hypothèse.
Ouais, alors là, on est quand même dans des circonstances très particulière, hein. C'est pas n'importe qui. Là, on est donc sur des alpinistes de haut niveau. Alors, effectivement, après, on peut compter que sur son instinct. Donc, si on veut philosopher sur est-ce que l'instinct est nécessaire, est-ce qu'il faut s'en remettre à la raison, etc., on est sur des... Encore une fois, si Joey Simpson s'est sorti de cette histoire-là, c'est qu'il est d'un tempérament actif et il est dans une survie active. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de morale ni quoi que ce soit à trouver de ce type d'acte. Il n'y a que la situation qui peut permettre de déterminer si on peut s'en sortir ou si on ne peut pas s'en sortir. Et en fait, c'est sur le moment. Il y a des gens qui se révèlent dans l'adversité et c'est le cas de Joey Simpson. C'est à un moment, il ne peut compter que sur lui.
Quand il dit quand même à la fin de l'histoire qu'il est devenu depuis un businessman, c'est qu'il vend cette histoire, je suppose, dans des séminaires de motivation, à des chefs d'entreprise, à tout un tas de gens qui essayent d'utiliser le message.
Alors absolument, mais en fait, Simpson, c'est assez drôle, d'ailleurs il s'est mis à l'ébénisterie là, il n'y a pas très longtemps, donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alpiniste, il a raccroché ses crampons en 2009 au Népal, Simpson, il a tout vendu son matériel et d'un seul coup il s'est arrêté. Il vit confortablement effectivement des livres qu'il écrit et des conférences qu'il donne de type team building, etc. pour parler de l'engagement, mais en fait, ce qui est important là-dedans, c'est de savoir que ça ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où il a toucher la mort de près. C'est la mort imminente, c'est l'expérience de la mort imminente avec toute la chimie du corps à ce moment-là, c'est-à-dire la production d'endomorphines, d'adrénaline, etc., qui vont le maintenir en vie, qui vont permettre de se dépasser. Alors après, qu'il utilise ce support-là, qui est un support beaucoup plus lié à l'instinct pour broder et en faire quelqu'un qui va raconter son histoire et pouvoir souder à travers un événement une équipe de commerciaux.
Mais pour vous, ça sert à rien.
Je pense qu'avant tout, c'est une histoire très très personnelle, cette histoire de Joey Simpson.
Je suis d'accord avec vous. Merci infiniment Eric Millet. Je rappelle le titre de votre livre, qui est une sorte de bible de la survie, parce que ça en a le format en plus. C'est un très gros livre chez Omnibus. Survivre, sous-titre témoignage.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.